RFI, il est 19h à Valparaiso, 20h à Montevideo et 1h à Issy-les-Moulineaux. Et on retrouve Antoine Galène pour le journal. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. À la une, les 4 militants français pro-palestiniens encore retenus en Israël seront expulsés jeudi et vendredi. Parmi eux, l'eurodéputé de la France insoumise Rima Hassan. Dans le même temps, le Parlement israélien pourrait voter sa dissolution, vous l'entendrez. Une mobilisation de plus en Serbie, les manifestants demandent la libération de 5 des leurs. Dans ce journal, l'ex-présidente Christina Kirchner définitivement condamnée pour corruption, 6 ans de prison et d'inéligibilité à vie pour l'ancienne chef d'État de l'Argentine. Elle dénonce une persécution destinée à la bannir de la vie politique. Et puis, nous serons en Corée du Sud. Sur ordre du nouveau président Lee Jae-myung, le gouvernement suspend sa campagne de propagande par haut-parleur à la frontière nord-coréenne.
RFI.
Sauf bouleversement de dernière minute, le Parlement israélien, également appelé la Knesset, pourrait voter sa dissolution. Un projet soumis par l'opposition et qui pourrait aboutir. Cette fois, les ultra-orthodoxes, des alliés habituels de Benjamin Netanyahou, ont menacé de soutenir ce projet. Ils font pression sur le Premier ministre israélien en demandant une loi d'exemption du service militaire pour les étudiants en religion. Alice Roussard.
Un peu comme un dernier effort afin de sauver sa coalition, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien poursuivi par la justice internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, s'appuie sur la menace iranienne. Celui que l'on surnomme le magicien utilise un argument bien connu. Il rappelle, je cite, qu'Israël est confronté à de nombreux défis et que dissoudre le Parlement serait la pire chose qui puisse arriver. Ce matin, les deux partis ultra-orthodoxes, Chass et le parti du judaïsme unifié de la Torah, ont pourtant confirmé leur intention de voter en faveur du projet de dissolution, et sans leur voix à la Knesset, le gouvernement ne disposerait plus de majorité absolue. Ces derniers ne souhaitent pas forcément de nouvelles élections, car la coalition actuelle, la plus à droite mais aussi la plus religieuse de l'histoire d'Israël, est celle qui leur est la plus favorable. Il s'agit davantage d'une forme de chantage des ultra-orthodoxes envers le Premier ministre. En revanche, il faut préciser que même si le projet de dissolution est adopté en première lecture, il faudra 3 votes supplémentaires au Parlement avant qu'il ne soit adopté définitivement. Ce qui donne à Netanyahou un certain répit, peut-être même de plusieurs mois, le temps de trouver un compromis.
Les 4 militants français pro-palestiniens encore retenus en Israël seront expulsés jeudi et vendredi. Parmi eux, l'eurodéputé de la France insoumise, Rima Hassan. 12 militants, dont la suédoise Greta Thunberg, étaient partis à bord d'un voilier pour briser le blocus israélien de Gaza. Le voilier Madeleine avait été arraisonné ce lundi au large des côtes de l'enclave. Pendant ce temps, la bande de Gaza continue d'être frappée par l'armée israélienne. Au moins 60 personnes sont mortes ce mercredi. La plupart d'entre elles se trouvaient à proximité d'un centre d'aide humanitaire. Washington ouvert à l'idée de prolonger la pause des droits de douane. Elle doit se terminer le 9 juillet, mais selon le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, si les négociations se font de bonne foi, les partenaires commerciaux des États-Unis pourraient être dispensés plus longtemps des taxes punitives voulues par Donald Trump en avril dernier. Le président américain les avait suspendues le temps de négocier des accords commerciaux. RFI, 1h03 à Belgrade. Ce mercredi, une manifestation a eu lieu devant le tribunal correctionnel de Novi Sad. Une de plus en Serbie, car depuis 7 mois, une vaste contestation populaire contre la corruption menace le régime du président Vucic. Les manifestants demandent la libération de 5 des leurs, un professeur d'université, 3 lycéens et un étudiant. Les précisions de Laurent Huy.
Ce matin à 7h, la police de la ville de Novi Sad a surgi au domicile de plusieurs protestataires qui avaient participé à des jets de farine et d'œufs sur le siège local du parti au pouvoir le 2 juin lors d'une manifestation anticorruption. 5 personnes en tout ont été arrêtées et amenées au tribunal correctionnel, tandis qu'une 6e personne, un professeur d'université témoin d'une altercation entre un policier et un soutien du régime, avait d'abord été convoqué comme témoin avant d'être finalement arrêté au commissariat. Depuis, les manifestants campent devant le tribunal. Ils réclament la libération de 5 des leurs, la 6e personne, un assistant universitaire, ayant été libérée entre-temps. La stratégie a de bonnes chances de donner des résultats, les manifestants ayant réussi à faire libérer trois des leurs en mai, en bloquant l'entrée du même tribunal pendant 2 semaines. Depuis avril, le régime d'Aleksandar Vučić tente d'éteindre la contestation dans la rue par des arrestations de manifestants, sans y être parvenu jusqu'à présent. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
Et Aleksandar Vučić, justement, s'est rendu en Ukraine ce mercredi pour un sommet régional. Une première depuis le début de la guerre. Pendant ce temps, Kiev a récupéré les corps de 1200 soldats tués sur le front. C'est l'une des plus importantes opérations du genre depuis l'invasion lancée par Moscou. Un nouvel échange de militaires grièvement blessés doit avoir lieu ce jeudi. Et ce, tandis que plusieurs frappes russes ont tué 3 personnes et fait plus de 60 blessés à Kharkiv. En Pologne, sans majorité, il aurait pu démissionner. Le Premier ministre pro-européen Donald Tusk a remporté ce mercredi le vote de confiance au Parlement. Élection convoquée après la victoire du nationaliste Karol Nawrocki à l'élection présidentielle avec 51% des voix.
RFI.
Direction l'Argentine où l'ex-présidente Cristina Kirchner a été définitivement condamnée pour corruption. La Cour suprême argentine l'a confirmé ce mardi. 6 ans de prison et inéligibilité à vie. L'ancienne chef d'État ne pourra donc pas être candidate dans la province de Buenos Aires au mois de septembre. Et comme depuis le début de la procédure, Cristina Kirchner a dénoncé une persécution politico-judiciaire destinée à la bannière de la vie politique. Théo Conscience.
Dès l'annonce de la décision de la Cour suprême hier, des milliers de partisans de Cristina Kirchner convergent vers le siège du parti qu'elle dirige. Le verdict était déjà écrit, lance l'ancienne présidente à la foule, avant de dénoncer la collusion entre juges, politiciens et milieux d'affaires qui a entaché la procédure.
Cette affaire a eu un calendrier électoral merveilleux.
Condamnée à l'inéligibilité, l'ancienne présidente ne pourra pas être candidate dans la province de Buenos Aires au mois de septembre. Il y a 6 ans déjà, sa mise en accusation dans cette affaire avait été prononcée juste avant le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle. Également condamnée à 6 ans de prison, elle a désormais 5 jours pour se rendre à la justice.
Nous allons faire face et nous n'allons pas nous dérober, car c'est l'apanage de la droite mafieuse. Nous, les péronistes, nous ne nous cachons pas et nous faisons face.
Le président argentin Javier Milei et l'ex-président Mauricio Macri se sont félicités de la décision de la Cour suprême. Les rassemblements en soutien à Cristina Kirchner se multiplient à travers le pays depuis hier et la principale centrale syndicale du pays s'est mise en état d'alerte le temps d'évaluer un éventuel appel à la grève nationale.
Et Javier Milei qui a annoncé que l'ambassade d'Argentine en Israël serait transférée à Jérusalem en 2026. Déclaration du président d'extrême droite lors d'un discours ce mercredi devant le Parlement israélien. L'ambassade d'Argentine est actuellement située au nord de Tel Aviv. En Afrique du Sud, le bilan des inondations monte à 49 morts, dont 4 enfants. C'est ce qu'indique le gouvernement local. De fortes chutes de neige et des pluies torrentielles ont touché ce lundi plusieurs zones de la province du Cap-Oriental dans l'est du pays, du jamais vu, selon le Premier ministre de la province. La Corée du Sud éteint ses haut-parleurs. Le gouvernement suspend sa campagne de propagande à la frontière nord-coréenne. Sur ordre du nouveau président élu Lee Jae-myung, l'armée met donc fin à un an de diffusion de messages de propagande. Une décision qui pourrait détendre les relations entre les deux pays. Correspondance de Celio Fioretti à Séoul.
C'était une promesse de campagne du président Lee Jae-myung, calmer les tensions à la frontière. Il y a 1 an, le gouvernement sud-coréen, mené par l'ex-président Yoon Suk-yeol, remettait en marche les haut-parleurs diffusant de la propagande à la frontière vers le territoire nord-coréen. Un moyen de guerre psychologique pour déstabiliser et mettre la pression sur le régime, une décision qui avait été prise en réponse aux envois de ballons de déchets par la Corée du Nord. Lee Jae-myung entend par ce geste diminuer les tensions frontalières qui ont drastiquement augmenté ces 2 dernières années. La Corée du Nord a officiellement renoncé à tout espoir de réunification, déclaré le Sud état ennemi et dynamité les routes et voies ferrées transfrontalières. Le nouveau président sud-coréen souhaite relancer les discussions avec le Nord dans l'optique d'un possible nouveau sommet entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump, qui a témoigné à de multiples reprises son désir de reprendre contact avec le dirigeant nord-coréen. Célio Fioretti, Séoul, RFI.
Et puis après 18 mois passés le long de la frontière avec la Corée du Nord, pour leur service militaire obligatoire, Jimin et Jungkook, deux stars du groupe de K-pop BTS, ont retrouvé leurs fans visiblement très émus. Le groupe sud-coréen domine régulièrement les classements mondiaux de vente d'albums. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.